Alors Michel Vieillard-Baron, professeur à l'INALCO, va donc nous parler des évocations de jardin dans les poèmes du Coquin Wakashu. Bon, je rappelle, mais tout le monde le sait, que Bernard Franck a consacré 3 années de son séminaire à l'École pratique des hautes études à un jardin de Kyoto aujourd'hui disparu, le Kawaranoin. Et qu'il rappelle que dans ce jardin se tenaient des réunions poétiques, donc poésie et jardin sont liés. Bon, dans le Kawaranoin possédait un charme auquel Bernard Franck était sensible, c'est qu'il fut hanté par des fantômes, mais je ne sais pas si ça apparaît dans, dans les poèmes du Kokinshu, je ne pense pas.
Les fantômes non, mais le Kawaranoin si.
Michel Vieillard-Baron est à la fois un grand spécialiste, peut-être le grand spécialiste actuel du waka classique, et en même temps, il a traduit, mais ça fait déjà pas mal d'années, le premier traité de l'art des jardins, le Sakteiki. Donc, il est tout à fait, on comprend pourquoi il a fait le choix du thème de sa communication d'aujourd'hui.
Merci pour votre présentation. Donc, les personnes ici présentes connaissent certainement le vif intérêt de Bernard Franck pour la poésie japonaise classique, le waka en particulier, et pour les jardins. Ses publications sur ces sujets en témoignent. Plus rares sans doute sont ceux qui se souviennent qu'il consacra une partie de son séminaire à l'École pratique des hautes études, celui de l'année 1967-1968, à l'étude d'un commentaire ancien du Kokin Wakashu, la première anthologie impériale de Waka. Ce commentaire, intitulé Kenchu Mikan, ou Considération secrète de Fujiwara no Teika sur les commentaires de Kensho à propos du Kokin Wakashu, est un texte qui mérite notre attention, car il s'agit en fait d'un double commentaire dû à 2 poètes majeurs de la fin de l'époque de Heian. L'objectif de ma présentation aujourd'hui sera donc d'une part d'examiner de quelle façon les jardins sont évoqués dans le Kokin Wakashu et d'autre part de lire les commentaires de Kensho et de Teika sur les poèmes du Kokin Wakashu qu'ils ont annotés afin de saisir ce que ces deux hommes ont jugé nécessaire de gloser et quelles informations ils ont voulu nous transmettre. Comme je le disais à l'instant, le Kokin Wakashu est la première, donc recueil de poèmes anciens et modernes, est la première anthologie de poèmes en langue japonaise, la première anthologie compilée sur ordre d'un souverain. Ce recueil fut compilé par 4 poètes majeurs, donc Kinoto Monori, Kinotsura Yoki, Oshikochi no Mitsune et Mibu no Tadamine, sur un ordre de l'empereur Daigo donné en 905. L'une des principales caractéristiques et des nouveautés du Kokin Wakashu est que les 1111 poèmes qu'il contient, datant pour les plus anciens du 7e siècle et pour les plus récents de l'époque des compilateurs, ne sont classés ni par auteur ni par ordre chronologique, mais par thème. Les poèmes sont ainsi distribués en 20 livres selon les thèmes suivants: printemps, été, automne, hiver, célébration, séparation, voyage, nom de choses, amour, élégies funèbres, divers, sujets divers, poèmes du bureau impérial de poésie, poèmes pour apaiser les dieux, poèmes des provinces orientales. Le Kenchu Mikan, donc, ou considération secrète de Fujiwara no Teika sur les commentaires de Kensho à propos du Kokin Wakashu, fut quant à lui produit en 2 temps. Kensho, poète célèbre pour son érudition en matière de waka et membre de l'école poétique Rokujo, écrivit ses commentaires vers 1183. Fujiwara no Teika, membre de l'école poétique rivale, appelée Miko Hidari, était considéré comme l'un des meilleurs poètes de son temps. Il fut d'ailleurs le compilateur de la 8e et de la 9e anthologie impériale. Teika rajouta ses surcommentaires en 1221. Il avait alors 59 ans et Kensho était mort depuis plus de 10 ans. Revenons au Kokin Wakashu. Le premier point qu'il convient de relever est la relative rareté des évocations de jardins dans cette anthologie, rareté d'autant plus surprenante quand on sait l'importance de cet espace dans l'architecture aristocratique du Japon classique. Seuls 13 poèmes sur les 1111 que compte l'anthologie évoquent directement ou indirectement un jardin. Les poètes ont de toute évidence privilégié les évocations de la nature et des sites célèbres. La brièveté du waka, rappelons qu'il s'agit d'un poème de 31 syllabes, ne permet pas de description détaillée. Les poètes de waka ont donc développé l'art de l'allusion ou de l'évocation furtive, laissant au lecteur ou à l'auditeur de leur poème le soin de compléter ou de reconstruire mentalement l'image évoquée. La lecture du Kokin Wakashu révèle que les jardins sont évoqués de 3 façons. Premièrement, d'une manière indirecte, en mentionnant un végétal de la maison, yado non. Deuxièmement, en évoquant un végétal que l'on plante, sous-entendu, dans le jardin. Et troisièmement, en mentionnant un jardin particulier. Nous allons donc à présent examiner les poèmes relevant de chacune de ces catégories. Donc, notre premier ensemble concerne donc les poèmes dans lesquels les auteurs évoquent un végétal de leur maison. Yado est dans ces waka une synecdoque pour l'ensemble de la propriété, dont le jardin. La première pièce est un waka anonyme, Yomibito Shirazu, dont le contexte de composition et le sujet sont également inconnus, Dai Shirazu. Ce poème figure dans le premier livre de printemps, le numéro 23. Iro yori mo kakoso aware to omo yure, tagaso de fureshi yado no umezo mo. Plus que leur éclat, c'est le parfum des fleurs qui me transporte. Qui donc de sa manche a frôlé le prunier de ma maison ? Le poète emploie dans sa pièce l'expression « prunier de ma maison, yado no ume ». Nous savons que dans le Japon classique, les arbres étaient plantés dans la cour ou le jardin d'une demeure, ces deux espaces étant désignés par le même terme « niwa ». C'est donc bien d'une évocation indirecte de jardin qu'il s'agit ici. L'auteur feint de manière plaisante de croire que c'est le contact d'une manche parfumée qui a donné aux fleurs de son prunier leur fragrance. Le deuxième poème est également un poème de printemps, mais de la fin de la saison. Il figure dans le livre 2. Il s'agit d'un poème d'Oshikochi no Mitsune, numéro 120 dans l'anthologie, où il est précédé d'une note, Kotoba Gaki. Je cite la note. « Comme les glycines de sa maison étaient en fleurs et que des gens s'arrêtaient pour les admirer, il composa. « Wagayado ni sakeru fujinami tachi kaeri, sugigate ni nomi hito no mirurang. » En vagues sont écloses les glycines de ma maison, elles vont et viennent, comme ceux qui les admirent, peinés, semble-t-il, de partir. Employant dans son waka l'expression « vague de glycines, Fujinami », le poète fait un parallèle entre le mouvement de va-et-vient des fleurs, semblable à celui des vagues de la mer, et celui des passants qui reviennent sur leurs pas, ne pouvant se résoudre à quitter du regard aussi splendide spectacle. Le poème suivant est une pièce d'été dont le contexte de composition et le sujet précis sont inconnus. Wagayado no ike no fujinami sakinikeri, yama hototogisu itsukakinakam. En vague, les glycines de l'étang de ma maison sont épanouies. Le coucou de la montagne, quand viendra-t-il y chanter ? Les glycines sont une fleur associée par la tradition poétique à la fin du printemps et au début de l'été. Le poète exprime ici son impatience d'entendre le coucou, oiseau associé à l'été, chanter dans son jardin. Notons que le jardin est ici évoqué par deux éléments, les glycines et l'étang. Le poème suivant est un waka d'automne, anonyme et de sujet inconnu. Akiwakine, momiji wa yado ni furishikine, michi fumi wakete to hito wa nashi. L'automne est bien là et les feuilles rougies tombées couvrent le jardin. Nul ne me rend visite en se frayant un chemin. Le poète, employant dans son waka le mot « yado », il nous revient de déterminer si les feuilles recouvrent la cour ou le jardin. Ces deux espaces étant contigus, j'ai choisi de rendre « yado » par jardin et de conserver dans le corpus cette évocation d'un espace entièrement recouvert de feuillage rougi. Le poème suivant est un waka d'hiver, anonyme et de sujet inconnu, numéro 318 dans l'anthologie. « Imayori wa tsugite furanam waga yado no suki oshinami fureru shirayuki » Que tombe sans cesse à partir de maintenant cette neige blanche qui de son poids fait ployer les miscanthes de mon jardin. Claude Perodi nous rappelle que les miscanthes, ce qui forment des touffes atteignant 1 mètre à 1,50 m. Les commentateurs anciens et modernes justifient différemment le désir du poète. Selon les propos de Tono Tsuneyuri, donc un poète du XVe siècle, rapporté par son disciple Soogi dans ses commentaires du Kokin Wakashu entendus à 2 reprises, Kokin Wakashu Ryodo no Kikigaki, c'est la beauté du spectacle de la neige sur les miscanthes qui motive la demande du poète. Pour le spécialiste contemporain Katagiri Yoichi, la requête du poète est justifiée par le fait que la neige était un présage de récolte abondante. Le poème suivant est un waka de célébration, Ganota, dû à Kino Tsurayuki. Dans l'anthologie où il porte le numéro 352, le poème est précédé d'une note que je cite. Poème composé et calligraphié sur le paravent, placé en décor de fond derrière le prince impérial Motoyasu à l'occasion de la célébration de son 70e anniversaire. Le prince Motoyasu, mort en 901, était le fils de l'empereur Nimmyo. On ne sait à quelle date précise s'est tenue la célébration évoquée ici. Elle eut sans doute lieu peu avant sa mort. Précisons qu'orner sa chevelure de fleurs permettait, croyait-on, de s'approprier l'énergie vitale qui leur était associée. Harukureba, yadonimazu saku mume no hana, kimi ga chisote no kazashi tozo miru. Quand vient le printemps, éclosent en premier dans le jardin les fleurs de prunier. C'est pour orner votre chef et vous souhaiter 1000 ans de vie. Nous avons là un exemple unique dans notre corpus de poèmes pour paravent. Le prunier est la première fleur à éclore au printemps, selon la tradition poétique tout du moins. Le poète se réjouit ici de l'auspicieuse coïncidence qui fait fleurir les pruniers au moment même où l'on célèbre l'anniversaire du prince. Le dernier poème de ce premier ensemble est un waka d'amour anonyme, numéro 498 dans l'anthologie. Son sujet précis et les conditions de composition sont également inconnues d'Aishirazu. Waga sono no ume no hitotsu ni ume no hitotsu e ni uguisu no ne ni naki no beki koi mo suru kana. L'amour que je ressens me ferait pousser des cris tels la fauvette sur les plus hautes branches du prunier de mon jardin. Notons que dans ce waka, le poète utilise le mot sono qui désigne plus spécifiquement un verger ou un jardin clos. Le jardin est ici un élément tout à fait secondaire. Le point important dans ce poème qui chante un amour tenu secret est le désir de l'auteur de pouvoir l'exprimer ouvertement, ou en tout cas de pouvoir exprimer ouvertement son amour. Examinons à présent notre deuxième ensemble de poèmes, ce qui évoque la plantation de végétaux. Le premier poème, un waka d'automne, est l'œuvre de Mibuno Tadamine. Nous savons grâce à la note que le waka fut composé et présenté à l'occasion d'un concours de patrini qui se déroula dans la résidence de Suzaku. Ce concours de fleurs de patrini, qui comportait également un concours de poèmes, fut commandé par l'empereur retiré Uda. Il se déroula l'automne de l'année 898 au Suzaku-in, sa résidence. La patrini, ou Ominaeshi, fleurit, nous rappelle Claude Peroni, d'août à octobre. Elle est faite de très petites fleurs jaunes en corymbe, c'est-à-dire en petits parapluies, denses à l'extrémité des ramifications. Le nom de cette fleur comportant les deux caractères signifiant jeune femme, Joro en japonais, la patrini est souvent utilisée en poésie comme métaphore pour les femmes. Ainsi, dans le poème suivant. Hitori no mi, nagamuru yori wa ominaeshi, wagasumu yado ni uete mimashi wo. Plutôt que d'être seul, plongé dans d'amoureux pensées, j'aurais dû planter dans le jardin de ma maison des fleurs de patrini. Le poète laisse entendre que s'il avait planté des patrini dans son jardin, il aurait eu des compagnes pour égayer sa solitude. L'exemple suivant est également un poème d'automne, donc il s'agit d'un waka d'Ariwara no Narihira. Donc, dans l'anthologie, il est précédé d'une note. Poème attaché à un pied de chrysanthème transplanté dans le jardin d'une certaine personne. Ueshi ueba, akinaki tokiwa sakarazaram, hanako so chirame nesae karemeya. Planté avec soin, ce n'est que faute d'automne qu'il n'éclorera. Les fleurs tomberont certes, mais ses racines pourraient-elles sécher? Le chrysanthème est au Japon comme en Chine symbole de longévité. Les années sans automne n'existant pas, il est implicite que le chrysanthème fleurira immanquablement. D'autre part, ayant été planté avec une attention extrême, son pied jamais ne dessèchera. Nous remarquons que le poète a focalisé son waka sur le pied du chrysanthème, le jardin lui-même est hors champ. Il n'existe que grâce à sa mention dans la note Kotobagaki. Examinons à présent la dernière pièce du premier livre d'automne, numéro 248 dans l'anthologie. Il s'agit d'un waka du recteur monacal Henjo. Ce poème est précédé d'une note. À l'époque où l'empereur de l'ère Ninna était prince, il décida d'aller voir la cascade de Furu et se mit en route. En chemin, il fit étape pour la nuit chez la mère de Henjo. Le jardin avait été aménagé de manière à évoquer une plaine automnale. Tandis qu'il s'entretenait de choses et d'autres, Henjo composa ce poème qu'il présenta à sa majesté. Sato wa arete, hito wa furinishi yadonareya, niwa mo magaki mo akino noranaru. Les lieux tombent en ruine et leur maîtresse est vieille à présent. Serait-ce pour cela que jardins et haies de bambou pleines d'automne sont devenus? L'empereur de l'ère Ninna est l'empereur Koko qui régna de 884 à 887. La cascade de Furu coulait dans l'enceinte du sanctuaire d'Isonokami, si dans l'actuelle ville de Tenri dans le département de Nara. Dans la tradition poétique, une plaine d'automne, Akinono ou Akinonora, évoque un vaste espace où fleurissent les sept plantes d'automne. les spédès, ragi, miskant, suzuki, puerer, kuzu, eye, nadeshiko, pratini, ominaishi, eupatoa, fujibakama et campanule kikyo, toutes baignées de rosée, un autre élément de la saison, et où résonne le chant des insectes ou le brame du cerf. Henjo dépeint de manière modeste et piquante le jardin comme le résultat d'un processus de délabrement général, alors qu'il est en réalité un décor créé de toutes pièces et sans doute avec un grand raffinement afin de mettre en scène la mélancolie de la saison. Ce poème a fait l'objet d'un double commentaire de Kensho et de Teika que je vous propose de lire. Le mot maegaki signifie aide devant. Contrairement à la haie qui entoure la propriété, sur les quatre côtés, on appelle maegaki la petite haie devant le jardin. On l'écrit avec le caractère, avec la clé de bambou et la séparation, et on la chante en poésie en l'appelant aussi masé ou magaki. Le mot nora désigne quant à lui une plaine. Dans le manyoshu, le mot nora s'écrit également avec le caractère signifiant l'herbe. Teika rajoute, notre interprétation de ces termes est identique. Les commentaires des deux poètes concernent donc uniquement le sens des termes magaki et nora. Examinons, pour clore notre présentation, un ensemble de trois waka classés dans le livre 16 du Kokin Wakashi consacré aux élégies funèbres, Aisho no Uta. Il s'agit des poèmes numéros 851, 852 et 853. Le premier est l'œuvre de Kino Tsurayuki. Il est dans l'anthologie précédé d'une note, poème composé en voyant les fleurs du prunier d'une maison dont le maître était mort. Iromokamo, mukashi no kosani ni oedomo, uekem hito no kagezo kanashiki. L'éclat des fleurs et leur parfum ont l'intensité qu'ils avaient jadis, mais celui qui planta l'arbre, combien nous le déplorons. Ce poème fait l'objet d'un commentaire circonstancié de Kensho. Ce dernier s'attache à commenter les variantes du second vers. Pour comprendre les propos de Kensho, il faut savoir que dans la version manuscrite du Kokin Wakashu due à Fujiwara no Kiyosuke et transmise dans l'école Rokujo, à laquelle appartenait Kensho, le deuxième vers est « Mukashi ni kosazu ». Selon cette version, le tercet initial doit être traduit « L'éclat des fleurs et leur parfum ne surpassent point ce qu'ils avaient jadis ». Lisons Kensho. Pour louer quelque chose, on dit qu'il surpasse l'ancien. L'expression « ne surpasse point ce qu'ils avaient jadis » mukashi ni kosazu signifie que tandis que le parfum et l'éclat des fleurs demeurent identiques jadis et maintenant, la personne qui a planté le prunier, elle, on la regrette car elle n'est plus. Dans la plupart des versions du Kokin Wakashu, on trouve au second vers « mukashi no kosani ni oedomo » ont l'intensité qu'ils avaient jadis. Dans ce cas, le poète dit que l'éclat des fleurs du prunier a la même intensité que jadis, ce qui revient au même. Dans le recueil personnel de Tsurayuki, le Tsurayuki-shu, on lit « Mukashi no kosazu ni oedomo », expression qui signifie que le poète demande aux fleurs de s'épanouir absolument de la même façon, sans rien céder de l'éclat qu'elles avaient jadis. Des trois versions de ce poème, celle avec « Mukashi no kosazu », sans rien céder de l'éclat de leur éclat de jadis, me semble la meilleure, « Yoku oboyu ». La version « Mukashi ni no kosazu » ne surpasse point ce qu'ils avaient jadis, implique, n'est-ce pas, que leur éclat devrait forcément surpasser celui qu'elles avaient jadis, ce qui me semble exagéré, « Sashisugite oboyu ». Dans la variante « Mukashi no kosani ni oedomo » ont certes l'intensité qu'ils avaient jadis, l'intensité « kosani » est mise en vedette, ce qui est vulgaire, « gebi ». Parlant de l'éclat et du parfum des fleurs, dire « mukashi no kosazu » sans rien céder de leur éclat de jadis me semble ample et très habile. Kensho rejette donc la version retenue dans la plupart des manuscrits du Kokin Wakashu, celle que nous avons citée en premier, et lui préfère une variante plus rare. Teika balaye d'un revers de la main ses arguments et écrit « Pour ce poème, nous utilisons la version avec « mukashi no kosa », l'intensité de jadis. S'agissant d'éclat et de parfum, parler d'intensité est approprié, n'est-ce pas ? Dans toutes les versions du Kokinshu que j'ai consultées, et même dans le recueil personnel de Tsurayuki, il est écrit « Mukashi no kosa », l'intensité de jadis. Il s'agit de copies anciennes, il n'y a donc point de discussion possible. Et de fait, toutes les éditions modernes du Kokin Wakashu retiennent la version « Mukashi no kosa », l'intensité de jadis. Le poème suivant est également une composition de Kino Tsurayuki. Dans l'anthologie, le poème est précédé d'une note. Étant allé après la mort du ministre de gauche de Kawara jusqu'à sa résidence, le poète composa ce poème en contemplant la baie de Shiogama qu'on y avait reproduit. le ministre de gauche est donc Minamoto no Toru. La baie de Shiogama, dont le nom signifie chaudière à sel, désignait l'ensemble de l'actuelle baie de Matsushima dans le département de Miyagi. Ce site, connu pour ses îlots couverts de pins, était considéré comme l'un des plus beaux du Japon, ce qui explique que Minamoto no Toru les fait reproduire dans le jardin de sa résidence. Lisons à présent le poème de Tsurayuki. Kimimasade, keburitae nishi shiogama no. La fumée a cessé depuis que vous n'êtes plus. Quelle est désolée à présent cette baie de Shiogama que je parcours du regard. Lisons à présent le commentaire de Kensho. Ce poème évoque la résidence extraordinaire que le ministre de gauche de Kawara avait construite à Rokujo et qui s'étendait jusqu'à la grève Kawara de la baie de la rivière Kamo. On y avait creusé un étang qu'on remplissait d'eau. On y versait chaque mois jusqu'à 30 koku, soit 5400 litres d'eau de mer, et on y faisait vivre poissons et coquillages des fonds marins. La baie de Shiogama de la province de Michinoku y était reproduite, et le ministre y faisait s'élever de la fumée des cabanes de sauniers. Monsieur Tsurayuki composa ce poème en voyant qu'après la mort du ministre, la fumée sur la baie de Shiogama s'était interrompue. On emploie fréquemment en poésie des expressions telles que « urasabishi » qui signifie à la fois « baie désolée » et « désolée » sans trop savoir pourquoi, « urakanashi » qui signifie « baie triste » et « triste » sans trop savoir pourquoi. Et donc le mot « baie » est qualifié de toutes sortes de termes, mais ici l'expression « urasabishi »« baie désolée » est associée à la baie de Shiogama. Ce poème est poignant à Warenaru. Il s'agit de l'endroit qu'on appelle également le palais de Higashi Rokujo, c'est-à-dire situé à l'est de l'avenue Rokujo. Teika rajoute « Je n'ai aucune objection concernant cette interprétation ». Bernard Franck a consacré d'importants travaux à Minamoto no Toru et à ce jardin dans lequel il avait poussé le souci d'authenticité jusqu'à faire pratiquer l'extraction de sel par ébullition, activité principale des riverains de Shiogama. Je renvoie donc les personnes intéressées à ces précieuses études. Abordons à présent le dernier poème de notre corpus. Il s'agit d'un waka de Miharu no Arisuke, donc numéro 853 dans le Kokin Wakashu, où il est précédé de la note que je cite « Les appartements qu'avait occupé Fujiwara no Toshimoto no Asson, quand il était général en second de la garde du corps section de droite, étaient restés inoccupés après sa mort. » Aussi, au milieu d'une nuit d'automne, comme le poète rentrait de quelque part, il regarda à l'intérieur de la propriété. Il vit que le jardin d'autrefois était envahi d'herbe et abandonné, aussi comme il avait servi là jadis, composa-t-il ce poème en se remémorant le passé. Kimi ga ueshi, hitomura susuki mushi no ne no, shigeki no betomo, nari ni keru kana. Ce bouquet de miscanthe que vous avez planté, le voici devenu une plaine touffue, où sans fin chantent les insectes. Fujiwara no Toshimoto mourut entre 888 et 898. Il occupa, semble-t-il, jusqu'à cette date, la fonction de général en second de la garde du corps section de droite, Ukon no Chujo. Arrivé au terme de ma communication, il convient de tirer les conclusions des différents aspects abordés. Les commentaires du Kenchu Mikan reflètent la sensibilité de Kensho aux différents emplois du vocabulaire poétique et aux variantes, connaissances sur lesquelles était en partie fondée l'autorité de son école poétique. Les surcommentaires de Teika, beaucoup plus brefs, révèlent son autorité en matière poétique, son assurance. Il laisse peu de place à la contradiction. Concernant les évocations de jardin, le premier point qu'il convient de rappeler, que j'ai déjà souligné tout à l'heure, c'est la rareté des évocations de jardin dans le Kokin Wakashu. Seulement 13 occurrences. Et encore ai-je inclus des poèmes dans lesquels le jardin n'est qu'un élément secondaire, voire tout à fait accessoire, quand il n'est pas absent du poème et simplement mentionné dans la note. Le terme jardin court, niwa, et jardin clos, verger, sono, ne sont employés qu'une seule fois chacun. Malgré tout, le jardin apparaît comme un espace dans lequel le poète peut aisément observer le passage du temps et s'émerveiller de l'apparition des éléments qui caractérisent chacune des saisons, éclosion des fleurs ou venue d'un phénomène naturel tel que la chute des feuilles rougies ou une tempête de neige. Le jardin est également le lieu où l'on peut entendre le chant des oiseaux ou celui des insectes. D'autre part, si les évocations de jardin les plus nombreuses figurent naturellement parmi les poèmes de saison, il convient de noter qu'on en relève également dans les poèmes de célébration, Ga no Uta, les poèmes d'amour, Koi no Uta, ou les élégies funèbres, Aisho no Uta. Les trois derniers poèmes que nous avons lus, des élégies funèbres, illustrent l'une des fonctions essentielles du jardin dans la poésie, mais également dans la prose du Japon classique. Un jardin à l'abandon permet d'évoquer le souvenir et la grandeur de son maître, personnage à présent disparu. Je vous remercie de votre attention.
Le japonais de Kantani Matomemasto, sono Kokin Wakashu ni okeru ni wa についてのワカを一応検討しまして、結局その古今和歌集の中で13集しかありません。その中でその、大体の和歌はその、季節の歌、春、秋、冬の歌ですけれども、あと雅の歌のもありますけれども、でも一番面白いこの、2話の描写は愛書の歌の中に見えます。それはなぜかと言いますと、このもう実にありました庭の描写は、一応亡くなられたその庭の主の形見として見られたということです。以上です。ありがとうございます。あ、そうそう、そしてその、もちろん県中未完も、そうそう、その一応その、県小統定下の注釈ですけれども、その、県中未完は2回もその引用しましたけれども、県中一応県小はその言葉の使い方についてこの注釈をつけて、定下はそれ一番正しい読み方は何かという言葉をパッと切って、それとても短いでも一応は今私たちが読んでいる古今和歌集はその定下本 を使っていますから、定下の正しさをよく分かる注釈です。以上です。ありがとうございます。